Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Que représente le mur de Berlin? Qu'a-t-il représenté? Qu'en reste-t-il? Si aujourd'hui le mur a physiquement disparu, continue-t-il d'exister, du moins dans les esprits? Après 40 ans de séparation et 20 ans de réunification pour l'Allemagne, quelle révolution la chute du mur de Berlin a-t-elle opéré? Quelles traces peut-on aujourd'hui observer de cet événement majeur de l'histoire du XXe siècle? Avec nous aujourd'hui, pour se pencher sur cet événement, en 2009, Thierry de Montbrial, de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur du livre « De Berlin à Pékin, 20 ans qu'ils bouleversèrent le monde », directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, dont le public connaît la publication annuelle Ramsès. Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
L'événement n'était pas annoncé, mais était-il prévisible?
A posteriori, tout le monde l'a prévu. A priori, fort peu de gens l'ont prévu. En fait, ce que l'on savait, c'était que si l'Union soviétique faisait preuve de fragilité et d'indécision, le système entier risquait de s'effondrer. Ce qui n'était pas particulièrement prévisible, c'était justement que le système soviétique ferait preuve de faiblesse. Et en fait, le système a commencé à se déliter tout au long de l'année 1989. Je ne vais pas refaire l'histoire, ça a commencé en particulier en Hongrie, avec une ouverture des frontières entre la Hongrie et l'Autriche. Et bien sûr, les années précédentes, 88, 87, Gorbatchev avait multiplié des signes qui étaient interprétés, non sans raison, relativement positivement par le monde occidental. Mais enfin, de là à imaginer qu'il allait tout lâcher, si vous voulez, en Europe de l'Est, c'était un pas que très peu de gens osaient franchir. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette chute du mur, ça a été la conclusion d'une chaîne d'événements qui se sont précipités tout au long de l'année 1989. Mais jusqu'au bout du compte, n'est-ce pas, Gorbatchev aurait pu interrompre le processus. Évidemment, il aurait fallu faire intervenir l'armée, ça aurait été sanglant, mais il aurait pu le faire.
Alors, vous partagez l'avis d'Hubert Védrine qui dit que tout s'était joué déjà en 85 avec l'arrivée de Gorbatchev?
Je ne dirais pas les choses comme ça. Généralement, je suis très en accord avec ce que dit Hubert Védrine. Mais je ne dirais pas ça parce que, vous savez, je me méfie beaucoup, encore une fois, des prévisions rétrospectives. Moi, j'ai vécu cette période et je l'ai suivie de très près. Je ne me souviens pas que beaucoup de gens aient expliqué en 85, 86 ou 87 que l'Union soviétique allait exploser et que l'empire extérieur soviétique allait se décomposer.
Oui, oui, c'est aujourd'hui avec le recul que...
Vous savez, on peut même remonter. Enfin, je pense que l'on peut voir les choses autrement aussi. Les choses auraient pu se passer très différemment. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu une longue négociation pour refaire ce qu'on appelle le traité de l'Union soviétique. Et ce traité de l'Union rénové devait préserver l'Union soviétique en donnant beaucoup plus d'autonomie aux 15 entités, 15 républiques qui la constituaient, dont la principale, naturellement, était la Russie. Il était convenu que Gorbatchev resterait le président donc de cette union plus faible, que Yeltsin, par exemple, aurait été président de la Russie dans ce nouveau système, et ainsi de suite. Les pays, par exemple, d'Asie centrale, comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc., n'avaient absolument pas envie de quitter l'Union soviétique. Et puis, vous avez eu cette incroyable, l'été 1991, cette incroyable tentative de coup d'État qui a été une espèce de grain de sable dans le système et qui a radicalement changé les choses. Et finalement, Yeltsin a totalement tourné le dos à tout ce qui avait été négocié et a en quelque sorte, si j'ose m'exprimer ainsi, proclamé l'indépendance de la Russie. Je fais exprès de le dire sous une forme paradoxale, c'est-à-dire fait exploser l'Union soviétique elle-même. Et l'Union soviétique est morte en décembre de l'année 2001, c'est-à-dire d'ailleurs exactement 2 ans, quasiment jour pour jour, après la chute du régime Ceausescu en Roumanie, qui elle-même concluait le cycle des événements de l'année 1989, dont la chute du mur en novembre avait été le point d'orgue. Donc tout ça, voyez-vous, pour dire que moi, je me méfie beaucoup du déterminisme rétrospectif, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on dit après coup, ce qui s'est passé devait se passer. Non, et il aurait pu se passer encore bien d'autres choses après. Je vous donne un exemple. Les conditions de la réunification allemande auraient pu être très différentes de ce qu'elles ont été.
Oui, on va peut-être revenir là-dessus, justement. Que pensez-vous de la gestion de la chute du mur de Berlin, de la gestion de cette révolution de velours aussi, par les autorités respectives de l'époque, sur le rôle des leaders de l'époque ? Moi, j'ai relu le Ramsès 90 et 91. Et j'ai été étonnée de votre ton dithyrambique à l'égard de Gorbatchev, qui était effectivement déjà remarqué comme un leader d'exception. Avec le recul 20 ans plus tard, comment voyez-vous la gestion de cet événement ? Qu'on a compris comme un événement important, mais est-ce que son ampleur n'a pas été minimisée ?
Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il est certain que Gorbatchev, il faut bien voir, n'est-ce pas, Gorbatchev a succédé à une série de trois vieillards qui étaient des gens malades. Bon, il y a eu Brejnev qui a régné sur l'Union soviétique pendant je ne sais plus combien d'années, et qui est mort pratiquement hors d'état, quand dans les derniers mois, hors d'état d'exercer ses fonctions. Lui a succédé Andropov, qui était un homme d'ailleurs, qui avait certainement d'assez grandes qualités, mais qui est tombé malade, et qui est mort aussi quelques mois après. Lui a succédé un autre vieillard, qui est également mort quelques temps après, qui s'appelait Tchernenko. Et donc, brusquement, on voit arriver un jeune homme, il faut voir qu'il devait avoir 56-57 ans à l'époque, donc ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire, une bouffée d'oxygène, et effectivement, qui a tendu la main, qui a su tirer les leçons aussi du fourvoiement de l'Union soviétique en Afghanistan, comme quoi d'ailleurs, oui, l'Afghanistan, on devrait y penser aussi ces jours-ci, etc., etc. Alors maintenant, je crois que quand vous parlez de la manière dont tout cela a été géré, peut-être faites-vous allusion plutôt au côté occidental, car il y a eu en effet beaucoup de polémiques, notamment à propos de François Mitterrand ou à propos de Madame Thatcher. Voilà, bon, vous voyez bien qu'à la fin de l'année 1989, c'est-à-dire au moment justement de la chute du mur, et même un petit peu avant, on était dans une situation qui était une situation d'immense incertitude, d'immense confusion, qui était une véritable révolution si est, par rapport à tout ce qu'on avait connu au cours des décennies précédentes. Et c'est pourquoi beaucoup de responsables de l'époque avaient une approche très prudente à cet égard, ce qui fut certainement le cas de Mme Thatcher, ce qui fut le cas certainement de François Mitterrand, mais ce qui fut également le cas de George Bush, le père. Et pour ce qui me concerne, je pense qu'ils ont eu raison d'être prudents. Du reste, à la fin du mois de décembre de l'année 1989, le chancelier Kohl lui-même pensait qu'il faudrait 10 ans pour effectuer la réunification allemande.
Et celle-ci s'est effectuée en quelques mois. Il y a eu un rôle particulier de Mitterrand, peut-être aussi.
Mais non, mais c'était l'opinion générale, oui. Si vous voulez. C'était pour ça. C'était l'opinion générale, parce que chacun... Mais le point important, c'est que même les responsables allemands pensaient que ceci prendrait beaucoup de temps. Puis tout le monde a été débordé, en réalité, par les circonstances. Parce qu'à partir du moment... Je vais vous donner un exemple aussi qui illustre ce débordement. C'est qu'à partir du moment où les Allemands de l'Est pouvaient librement passer vers l'Ouest, comme il y avait des lois qui avaient été votées depuis longtemps. Il y a une époque où cette situation était probablement inimaginable, où une situation de ce genre était inimaginable, qui donnait automatiquement la situation, la nationalité ouest-allemande aux citoyens de la RDA qui parvenait à rentrer en RFA. Eh bien, à partir du moment où il y avait des millions de gens qui arrivaient, vous voyez, il y avait une perte de contrôle totale. Donc, effectivement, il a fallu précipiter la réunification. Et somme toute, ça s'est passé relativement bien.
En fait, ça a été assez rapidement que cette idée de réunification a été associée à la chute du mur de Berlin. Même si ça s'est fait longuement, ça fait partie de ce débordement dont vous parlez.
La chute du mur de Berlin, c'est fondamentalement un événement, c'est un événement pratique, mais c'est surtout un événement symbolique. Oui. Mais à partir du moment où les gens pouvaient rentrer de toute façon, si j'ose dire, en contournant physiquement le mur, la chute du mur elle-même était la conséquence évidemment logique de tout cela.
Alors, en quoi la chute du mur marque-t-elle la fin d'une époque ?
Cette chute du mur marque très symboliquement, tout simplement, la fin de la division Est-Ouest. C'est donc, toujours sur le plan symbolique, un événement considérable. Et d'ailleurs, pour ceux qui pourraient être tentés de comparer la chute du mur de Berlin à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, on voit qu'il y a au moins une différence, c'est que la prise de la Bastille est un événement que personne n'a particulièrement marqué à l'époque, puisque au point que le roi Louis XVI, dans son journal bien connu, avait marqué ce jour-là « rien à signaler », tandis que la chute du mur a été un événement éminemment remarqué.
Vous avez voyagé à ce moment-là, vous êtes allé en Allemagne
? J'ai vécu, bien sûr, j'étais pas physiquement devant la porte Brandebourg le jour en question, mais j'ai voyagé énormément en Allemagne et ailleurs dans cette période, et j'ai suivi ça bien évidemment au jour le jour, très activement.
Vous vous souvenez de ce que vous avez pensé que ça pourrait induire comme nouveaux horizons ?
Je l'ai pensé, mais dans mon livre qui s'appelle 20 ans qui bouleversèrent le monde, qui reprend beaucoup des choses que j'ai écrites progressivement, je compare immédiatement, et avant même d'ailleurs la chute du mur, je compare immédiatement la situation précisément à 1789. C'est-à-dire que j'ai tout de suite compris que 1989 serait ou pourrait être à l'échelle du monde ce que 1789 avait été à l'échelle de l'Europe, c'est-à-dire un événement majeur avec une distinction essentielle entre le avant et le après. Ça, c'était tout à fait clair dès le printemps et l'été de 1989. Ce qui était moins clair, c'est comment les choses pouvaient tourner, parce qu'il y avait beaucoup de façons possibles dont les choses pouvaient tourner.
On a justement peut-être minimisé cet aspect révolution pacifique quand même, vu l'ampleur du changement, l'ampleur de l'événement.
C'est en effet...
On n'a pas peut-être réalisé qu'aucune goutte de sang n'avait été versée.
Alors, aucune goutte de sang n'a été versée. Naturellement, les difficultés ont été différées à certains égards. Parce que la chute des empires, ça n'est jamais simple. Parce qu'il faut bien voir que ce qui s'est passé entre 1989 et 1991... c'est en réalité deux événements superposés, l'un entraînant l'autre. C'est à la fois la chute du système soviétique, et donc du système marxiste-léniniste stalinien qui s'était construit à partir de la révolution de 1917, mais il y a un deuxième événement, c'est la chute de l'Empire russe. Parce que la chute du système soviétique a entraîné la chute de l'Empire russe. Et voyez-vous, toute l'histoire du XXe siècle est une histoire de chute d'empire. Ça a commencé après la Première Guerre mondiale, la chute de l'Empire austro-hongrois, la chute de l'Empire ottoman. Après la Seconde Guerre mondiale, ça a été la chute des empires occidentaux, des empires européens, en particulier en Asie, en Afrique, etc. Et là, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que l'Empire russe s'est écroulé d'un seul coup, ce qui est absolument extraordinaire. Mais du coup, ça a réactivé toute une série de problèmes qui avaient été, pour certains, gelés depuis la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis maintenant 18 ans, parce que je crois que la bonne date, c'est 1991, c'est la chute de l'Union soviétique. Et croyez-moi, c'est une situation dont nous allons avoir à gérer l'héritage pendant encore des décennies. Ça n'est toutes les histoires, qu'il s'agisse des Balkans, de l'Europe centrale, du Kosovo, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, bien entendu, dans son ensemble, sur des histoires et puis toutes les ex-pays, les ex-républiques soviétiques, on en a pour des années, des années et des années.
Et une reconstitution des identités actuelles de ces pays, aujourd'hui, 20 ans après justement la chute du communisme, vers quoi est-ce que ce serait justement pas un danger pour la mémoire de l'Europe ?
De toute façon, dans ce genre de situation, il y a des recompositions. Les identités, je crois qu'elles ne disparaissent jamais. Elles étaient simplement enfouies. Il est certain qu'à l'époque soviétique, les experts occidentaux des relations internationales, sauf exception, ne connaissaient pas grand-chose sur la Tchétchénie ou sur les différentes composantes ethniques du Kazakhstan, du Turkménistan ou que sais-je. Alors aujourd'hui, on est amené à s'intéresser de beaucoup plus près à tout cela. Mais il y a des questions de recomposition territoriale, il y a des questions de recomposition étatique. Un exemple tout à fait type et toujours pas résolu, qui est très proche de nous, c'est tout ce qui se passe dans l'ex-Yougoslavie et n'est-ce pas des pays comme la Bosnie-Herzégovine ou naturellement le Kosovo. Vous enlevez les troupes onusiennes ou otanesques et à ce moment-là, tout repart, n'est-ce pas ? Toutes les guerres et les divisions, les conflits repartent.
Il y a eu un grand ratage, c'est pas le bon mot, mais juste après la chute du mur, oui. Avec l'éclatement de la Yougoslavie et de la guerre.
Alors, si vous voulez, je crois qu'en effet, c'est un très bon exemple parce qu'il est très intéressant de comparer ce qui a été fait en Allemagne sur le plan réunification, et ceci donc dans le courant de l'année 1990.
Et là, ça a été rapide
quand
même. Et
ce qui n'a pas été fait, ou ce qui a mal été fait, sur la Yougoslavie. La raison pour laquelle ça a marché pour la réunification allemande, c'est que toutes les puissances concernées, essentiellement quatre, les fameuses quatre puissances concernées, c'est-à-dire l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la France et naturellement l'Allemagne, se sont mis d'accord sur les processus. C'est-à-dire que cette réunification allemande et la Grande-Bretagne, que j'ai dû oublier, c'est alors en fait ces quatre puissances plus les Allemagnes, se sont mis d'accord sur le processus qui a conduit à la réunification. Cette réunification n'a jamais été décidée unilatéralement par les Allemands. Elle a été en accord avec les Soviétiques, en accord avec les Britanniques, en accord avec les Français. Donc c'est quelque chose de très important qu'il faut garder en tête. Dans le cas de la décomposition de la Fédération yougoslave, malheureusement, les Occidentaux de l'époque ont été divisés. Par exemple, les Anglais et les Français, pour une fois du même côté, pensaient que l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie ne devait pas être reconnue en dehors d'un cadre général portant sur l'ensemble des républiques yougoslaves. Et pour des raisons qui sont encore d'ailleurs controversées historiquement, les Allemands ont eu un point de vue différent. Enfin, toujours est-il que ces deux républiques ont proclamé unilatéralement leur indépendance et naturellement tout ceci a entraîné une suite de conflits dont le plus sanglant a été le problème de la Bosnie-Herzégovine et puis finalement donc la décomposition complète de la fédération et puis finalement le sursaut national communiste de la Serbie avec Milosevic, puis l'affaire du Kosovo et ainsi de suite.
L'Europe a-t-elle manqué une occasion au moment de la chute du mur pour affirmer une originalité européenne dans le champ plus vaste de la mondialisation ?
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, parce que vous savez, l'Union européenne, elle a été prise de court. D'ailleurs, on disait à ce moment-là, la communauté européenne a été prise de court face à un tremblement de terre historique, comme il en arrive peu souvent, et nous n'étions pas particulièrement préparés à cette hypothèse. Alors, je crois que compte tenu des réalités...
Sur les 10 ans qui ont suivi...
Non, je pense que compte tenu... On ne peut pas, il faut être réaliste. L'Union européenne, telle qu'elle a été construite, telle qu'elle s'est faite, ne pouvait pas réagir comme un État uni face à des événements aussi fondamentaux. En revanche, je trouve qu'on a, pour l'essentiel, assez bien agi, parce que, d'abord, on a pris des décisions très courageuses d'élargissement. Moi, j'étais très réticent, parce que je pensais que je voyais très bien les dangers qu'il pouvait y avoir à élargir trop vite. D'un autre côté, il fallait tout de même le faire, parce que c'est cet élargissement qui a donné des perspectives à des pays comme, typiquement, par exemple, la Hongrie et la Roumanie. La Hongrie et la Roumanie avaient des conflits territoriaux latents qui étaient hérités, justement, de la Première Guerre mondiale, sur la question de la Transylvanie. Et c'est grâce à la perspective européenne et à l'entrée dans l'Europe qu'ils n'en sont pas venus aux mains. Sinon, il y aurait certainement eu une guerre entre la Roumanie et la Hongrie. Et vous imaginez les conséquences qu'un tel développement aurait pu avoir. Donc, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Nous avons également apporté des aides économiques absolument massives à ces pays, qui continuent d'ailleurs encore, et des aides auprès desquelles la fameuse aide Marshall américaine pour les pays européens vaincus de la Seconde Guerre mondiale paraissent de minuscules. Donc, nous avons vraiment fait des efforts considérables. Alors, là où ça n'a pas marché, effectivement, oui, ça a été l'affaire yougoslave. Maintenant, si vous regardez les choses dans l'optique de la bouteille à moitié vide, eh ben effectivement, le drame de la décomposition yougoslave et surtout donc la situation de la Bosnie-Herzégovine, c'est un drame en effet terrible, humainement, politiquement, etc. Si vous regardez les choses du côté de la bouteille à moitié pleine, on peut quand même se féliciter qu'il n'y ait eu que cela.
Vous venez de nous rappeler, disons, le côté quand même très positif de la chute du mur et de ses conséquences. Y a-t-il eu des victimes de la chute du mur de Berlin ?
Des victimes sur quel plan ?
Quelles ont été les conséquences sociales et politiques de la fin du communisme ?
C'est une question passionnante et qu'il faut aborder évidemment avec un esprit de nuance. Bien entendu, il y a eu les victimes d'une manière générale. Si on prend l'écroulement du système soviétique, du système communiste, qui est du côté de ceux qui étaient des privilégiés du système. Bon, ça va de soi. Remarquez que même ça est à nuancer parce que, comme dans la plupart de ces pays, le régime est tombé non pas tellement à partir de la rue. Bon, la rue a manifesté, mais il faut bien voir que c'est tout de même pas une révolution qui est venue de l'intérieur de chacun de ces pays. La révolution, elle a été permise à cause du fait que l'Empire, le centre de l'Empire, a lâché prise. Il ne faut jamais oublier ça. Mais du coup, dans certains pays, je pense par exemple à la Bulgarie, qui n'est absolument pas le seul, les élites qui sont au pouvoir aujourd'hui encore sont les anciennes élites communistes. Je veux être désagréable vis-à-vis de personne, il n'y a pas lieu d'être désagréable. Mais par exemple, la personne qui vient d'être choisie pour diriger l'UNESCO, qui était ambassadrice en France, qui est une personne d'ailleurs tout à fait remarquable, est une grande famille communiste, du système communiste bulgare. Donc, et ce genre de situation est très répandu dans les pays d'Europe de l'Est. Donc il y a des gens qui sont toujours du bon côté du manche. Et si on s'imagine qu'il y avait les bons, les mauvais, que les mauvais ont été punis, etc., c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, je pense que dans votre question, il y avait un aspect plus profond, sans doute, qui était la question des conditions de vie.
Oui, qui a perdu des avantages, disons, avec la chute du mur de Berlin parmi les habitants de l'Est. Est-ce que les femmes, là on parlait des crèches, au niveau de la scolarisation aussi, de toutes ces questions sociales.
Voilà, tout ce que je peux vous dire.
Est-ce que là, il n'y a pas une question sociale
Naturellement, d'abord, la reconstruction en Allemagne de l'Est, c'est très impressionnante. Moi, j'ai beaucoup visité ces régions, et même avant. J'avais vu l'Allemagne de l'Est, j'avais connu l'Allemagne de l'Est avant, donc ce qui a été fait est assez remarquable. Alors, cependant, il est vrai que dans les mentalités, je crois qu'il faudra certainement pour effacer entièrement les traces du mur dans les têtes. Mais il y a un autre point, et je pense que c'est à ça aussi que vous faites allusion, qui vaut d'ailleurs pour l'Allemagne, mais qui vaut pour d'autres pays de l'Est, et qui vaut en particulier pour la Russie elle-même, c'est que, ne nous y trompons pas, vous avez encore beaucoup de gens dans ces pays qui ont une certaine nostalgie de l'époque antérieure. C'est un fait. Et je vais assez souvent, pour ma part aussi, en Russie. Ça me frappe toujours beaucoup de voir parfois même des gens très jeunes qui ont une certaine nostalgie. Alors, comme dans toute nostalgie, on reconstruit un peu l'histoire, bien entendu, mais ils ont la nostalgie, en ce qui concerne les Russes, évidemment, d'une époque où leur pays était plus puissant. C'est un aspect. Mais ils pensent aussi que, certes, on vivait peut-être pas très bien, mais qu'il y avait une justice sociale qui était plus grande, que les inégalités étaient moins criardes, qu'il y avait une certaine sécurité de l'emploi, tout au moins pour les gens qui ne se distinguaient pas politiquement, parce que l'emploi était évidemment très lié à la conformité politique. Si vous n'étiez pas dans le système, vous pouviez vous retrouver à la rue. Mais enfin, comme la plupart des gens ne faisaient pas de politique, si vous voulez, il y avait tous ces facteurs-là, et on entend effectivement encore beaucoup de formes de nostalgie qui se manifestent. Le fait obligé de se battre, le chômage, le fait que beaucoup de gens âgés, mais qui par définition disparaissent...
Oui, mais il y a des problèmes de retraite plus importants dans les anciens pays de l'Est que dans...
Exactement. Dans tous ces problèmes-là,
la transition économique n'est pas achevée.
Absolument.
Est-ce que le rapport au passé de ces anciens pays de l'Est, par rapport au communisme, est-il aussi avancé sur un autre sujet qui est celui du nazisme ? Est-ce que ces deux grands totalitarismes dont ces pays ont été victimes, est-ce qu'ils ont eu, à l'égard de ces deux grandes questions, la même attitude ? Et est-ce que ça ne pèse pas sur les prochaines constructions identitaires ?
Alors, je vais vous dire, d'abord, je suis évidemment parfaitement conscient et même assez bien informé sur ce débat, c'est-à-dire est-ce que le nazisme et le communisme sont à le mettre sur le même plan, etc.
Je ne parle pas pour nous.
Bien sûr. Alors, vous avez, par exemple, mon confrère Alain Besançon, à l'Académie des sciences morales, a là-dessus des positions extrêmement tranchées, etc. Moi, en effet, je me place d'un point de vue différent. Je me place d'un point de vue intellectuel en essayant de juger les uns et les autres, etc. Bon, ou d'un point de vue doctrinal. Mais je me place, je crois que c'est à ça que vous m'invitez aussi, du point de vue de la façon dont ces pays-là vivent les choses aujourd'hui. Et on pourrait d'ailleurs parler aussi de la Chine, hein, parce qu'il faut bien voir que la Chine aujourd'hui se rattache toujours sa légitimité à Mao, hein, toujours. Bon. Alors, je pense qu'il faut voir que pour beaucoup de gens encore dans ces pays, et pas seulement des vieux, l'idéal communiste a représenté un idéal respectable. Et je suis très frappé, je le vois tout le temps. Même je vois par exemple des gens dans ces différents pays, des jeunes alors, qui me parlent de leur père, souvent vivant, ou de leur grand-père, et qui en parlent avec respect. Et le fait que ces gens-là aient été, et dans certains cas restent encore attachés à cet idéal, ils le considèrent comme quelque chose d'éminemment respectable, tout en reconnaissant qu'il y a eu des déviations, des horreurs, etc., etc. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, je crois qu'il faut revenir là-dessus, c'est que, en tout cas dans les pays d'Europe de l'Est, la chute du communisme, même s'il y a eu des dissidents, même s'il y a eu certains mouvements qui ont été courageux, mais pour l'essentiel, elle n'est pas une victoire militaire des uns contre les autres, elle est la conséquence du lâcher-prise de la puissance soviétique. Donc c'est très différent. Et par conséquent, tous ces pays, ils doivent vivre encore avec des gens qui exercent aujourd'hui des responsabilités très importantes et qui étaient souvent des personnalités occupant des positions clés dans le régime communiste. Je prends un homme d'ailleurs très sympathique que je connais bien, que j'ai reçu plusieurs fois à l'IFRI, qui est bien connu en France, qui est M. Alexandre Kwaśniewski, qui a été le précédent président de la République polonaise, le successeur de Walesa. Eh bien, Kwaśniewski a été une jeune vedette du Parti communiste polonais. Bon, alors, il faut voir aussi que dans ces pays, ceux qui étaient restés dans le pays, pratiquement tous, je ne dirais pas tous, parce qu'il y avait des toutes petites minorités de vrais dissidents, etc., mais tous ceux qui n'étaient pas engagés dans des voies de résistance, ils étaient très peu nombreux, tous les autres, par définition, ont collaboré d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi on ne peut pas, je crois, approcher un problème comme celui-là avec les lunettes très françaises qui étaient celles, par exemple, du vichysme ou comment regarder la collaboration dans une période d'occupation étrangère, l'occupation nazie en l'occurrence, qui a duré un tout petit nombre d'années. Vous voyez, je crois qu'il faut regarder ces questions-là avec, je crois, beaucoup de prudence et beaucoup de mesure.
Il y a une question qui se pose beaucoup en relations internationales, c'est celle de la sécurité, de la défense et de la sécurité. Alors, est-ce que, d'après vous, le monde de l'après-communisme est-il plus dangereux que le monde du temps de cette guerre froide et de cette menace nucléaire constante? Vous êtes déjà exprimé sur ce sujet,
oui, bien sûr.
Mais par rapport à la chute du mur, à cette Europe en recomposition, à cet élargissement de l'Europe...
Je crois que la réponse courte à cette question qui est immense et qui pourrait nous occuper pendant des heures est la suivante, c'est qu'à l'époque soviétique, à l'époque du conflit Est-Ouest, à l'époque du monde qu'on appelait l'époque bipolaire, d'abord, il y avait énormément de conflits, il y avait énormément de conflits, mais des conflits qui restait relativement maîtrisé parce que les deux superpuissances, ou les deux camps, disons, n'avaient aucun intérêt à les laisser monter et entraîner une situation où ils auraient perdu le contrôle, ce qui aurait pu conduire à un risque nucléaire que, justement, tout le monde voulait éviter. Et derrière ça, naturellement, il y a tout le débat sur l'aspect stabilisateur des armes nucléaires. Et moi, je suis de ceux qui pensent, bien que ce soit improuvable par définition, que les armes nucléaires ont joué en effet un rôle stabilisateur et nous ont préservés d'une troisième guerre mondiale dans le contexte de l'époque. Alors aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de monde bipolaire, il n'y a plus de risque de guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie ou quiconque, en tout cas dans le contexte actuel. Et le nombre de conflits potentiels a plutôt augmenté en raison précisément de toutes ces décompositions et recompositions potentielles qui résultent des éclatements d'empires, des réactivations de conflits antérieurs, etc. Donc le monde est en effet devenu assez dangereux, mais pas pour les mêmes raisons et pas avec la même ampleur. Et ceci implique évidemment que la question de la gouvernance en matière de sécurité, qu'il s'agisse du niveau global, c'est-à-dire au niveau de l'Organisation des Nations Unies, ou qu'il s'agisse au niveau d'organisations régionales, comme par exemple l'OTAN, pour ce qui concerne le monde occidental, ce sont des questions absolument majeures. Mais on voit bien que la situation actuelle, par exemple au Moyen-Orient ou en Afghanistan, ou peut-être aussi au Pakistan, ce sont des situations qui sont extrêmement complexes et dont l'issue n'est pas claire du tout à l'heure actuelle.
Alors, et sur l'aspect politique de l'Europe, est-ce que vous pensez que les anciennes démocraties populaires, les anciens pays de l'Est, sont déjà, est-ce que vous diriez ça, des démocraties fatiguées par rapport, je pense, aux abstentions au moment des élections, au rapport à la démocratie.
Je pense qu'il y a...
Même si le communisme est complètement délégitimé, est-ce que c'est complètement remplacé par la démocratie?
J'entends bien. D'abord, le poids de l'histoire est toujours très grand partout. Hein. Et il faut le répéter que même en Pologne, ce que M. Kaczynski ou ses amis appellent les lustrés, c'est des gens qui ont été associés au régime antérieur. Enfin, il y en a partout. C'est comme ça. Ces régimes ont duré le temps de deux générations. Il est bien évident que tout le monde a été impliqué d'une manière ou d'une autre. J'ai organisé l'autre jour à l'IFRI une réunion à laquelle participaient certains des grands acteurs de la table ronde, comme Mazowiecki, mais il y avait également le général Jaruzelski. Je peux vous dire que le général Jaruzelski est respecté. Ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas. Il est respecté même de ses adversaires, qui se rendent bien compte que ses motivations étaient respectables à certains égards. Donc ce sont des situations très complexes. D'autre part, il voit bien que le développement de l'économie de marché, du capitalisme un peu sauvage, la démocratie, etc., tout ça c'est formidable, mais c'est loin d'être parfait. Par conséquent, tous ceux qui rêvaient brusquement de se retrouver dans un monde... Dans le meilleur des mondes, sont déçus et du coup, ça entraîne des débats qui ne sont pas toujours extrêmement sympathiques et qui parfois vont un petit peu trop loin, un petit peu trop passionnés. Voilà. Et puis, ils ont aussi des craintes qui sont des craintes un peu archaïques. Par exemple, les Polonais, et comment leur en vouloir ? On les comprend. Hein, ils ont peur de la Russie, même si la Russie... n'est pas particulièrement menaçante et on ne voit pas comment elle pourrait l'être d'ailleurs à horizon prévisible, mais également des ressentiments vis-à-vis de l'Allemagne.
Ce sont des choses très complexes.
Des lignes de faille. Non, moi je pense qu'il faut être extrêmement patient, il faut apprendre à vivre ensemble et je crois que l'Union européenne, malgré tous ses défauts, est un très bon cadre pour cela. Mais ne nous étonnons pas, ça aussi, je veux dire, ça me paraissait évident dès 1989, que pour arriver à apaiser toutes ces turbulences et à prendre une nouvelle manière de vivre ensemble, ne nous étonnons pas que ça prenne au moins une, et à mon avis, plutôt deux générations.
Est-ce que la dénomination Europe de l'Est, aujourd'hui, a-t-elle encore un sens ?
Alors, là, on a une question intéressante qui est la terminologie des découpages géographiques.
Géographiques, les questions de frontières, etc. Qui est pour moi
au cœur de ce que j'appelle de la géopolitique, dans le sens précis que je donne à ce terme, qui pour moi, la géopolitique, c'est l'idéologie relative au territoire. Donc, quand vous regardez, moi, j'aime bien collectionner les grands ouvrages, les atlas, mais également les ouvrages de géographie, les grands traités de géographie, par exemple, Élisée Reclus, si vous voulez, tous les grands traités de géographie que je peux trouver, et les Vidal de la Blache, etc. Bon, et jusqu'à Roger Brunet, un peu spécial à notre époque, bon, et d'autres. Il est très intéressant de voir comment évolue la terminologie régionale, n'est-ce pas ? Par exemple, la Pologne a été classée tantôt Europe de l'Est, tantôt Europe centrale, tantôt Europe russe d'ailleurs, ou maintenant on dirait Europe de l'Ouest, voyez-vous. Il est bien évident que chacune de ces catégories reflète une vision idéologique de la question des territoires. Alors aujourd'hui, il me semble que la tendance dominante quand on parle de l'Europe de l'Est, c'est d'aller au-delà de ce qui fait partie de l'Union européenne, de ce qui fait actuellement partie de l'Union européenne ou de ce qui en fera tôt ou tard partie, comme par exemple la Serbie, etc. Bon, alors on parlerait plutôt d'Europe centrale. Aujourd'hui, les Balkans, si on veut être désagréable, à cause des connotations, bien entendu, et on dirait sans doute que l'Europe de l'Est comprend l'Ukraine, comprend la Russie, et si d'aventure l'Ukraine devait rentrer dans l'Union européenne, ce que je ne crois pas pour demain, mais si elle devait rentrer dans l'Union européenne et que la Russie en reste extérieure, vous verrez que ce jour-là, on classera l'Ukraine dans l'Europe centrale et l'Europe de l'Est reculera de plus en plus jusqu'à la limite tendre vers la Chine.
Donc,
ou en tout cas vers la Sibérie.
D'accord, jusqu'à l'Oural.
Mais remarquez aussi que cette terminologie, par exemple, moi je suis assez intrigué par l'attitude sur la Géorgie. Par exemple, la Géorgie, on n'a pas parlé de ça et on parlera peut-être une autre fois, mais la Géorgie, un certain nombre de personnes qui voient les choses sous des lunettes très idéologiques voudraient mettre la Géorgie dans l'Union européenne ou dans l'OTAN. Mais les géographes traditionnels n'ont jamais placé la Géorgie dans l'Europe. La Géorgie a toujours été, dans la vision géographique traditionnelle, placée en Asie. Oui, en Asie occidentale, mais en Asie. Puisque dans la vision qui était celle du général de Gaulle, qui lui-même d'ailleurs la tenait de ses professeurs de géographie, les limites de l'Europe, c'était quoi? C'était l'Oural, c'était le Caucase et les détroits. Et les détroits, Bosphore et Dardanelles. Bon, ben le Caucase, la Géorgie est au sud du Caucase, donc appartient à l'Asie dans cette terminologie traditionnelle. Un homme comme de Gaulle n'aurait jamais imaginé qu'on puisse placer la Géorgie dans le Caucase. Et si on pousse un instant cet exemple, eh bien vous avez les fameux Ossètes, hein, dont tout le monde a pris conscience de l'existence l'an dernier. Eh bien, il y a une Ossétie du Nord et une Ossétie du Sud. L'Ossétie du Nord se trouve dans la Fédération de Russie. L'Ossétie du Sud se trouve en Géorgie. Et donc, les Ossètes du Nord sont en Europe, les Ossètes du Sud sont en Asie. Ils ont en commun le fait que ce sont des Ossètes et qu'ils sont d'ailleurs ni russes, finalement, ni géorgiens.
Alors après cette explication, ces commentaires sur les effets papillons de la chute du mur, je vous remercie pour cette émission.
Merci à vous. Merci.